Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, Bruno Donnet pour ses télescopages. Notre invitée, la chanteuse Nolwenn Leroy, va parler de son nouvel album La Cavale et aussi du Capitaine Marlowe, la série qui écrase tout sur son passage, en tout cas en termes d'audience. Elle sera dans l'épisode de vendredi. Lisa Marie Marquez va nous dresser le portrait pré-fame de Nolwenn Leroy, tout ce qui est arrivé à notre célébrité avant la célébrité. Et puis Marc-Antoine Lebray, évidemment, pour clore l'émission. Bonjour Stéphanie Loire.
Salut Philippe Vandel.
Bonjour Nicolas Carreau.
Bonjour Philippe Vandel.
Et bonjour Bruno Donnet.
Bonjour Philippe.
Alors tous les jours Bruno, vous surveillez ici les passions médiatiques. Lundi soir, vous avez regardé L'amour est dans le pré. Hier, les chaînes d'info, et vous nous dites que Marie-Ange, l'une des candidates du programme d'M6, a eu un début de semaine difficile.
Oh là là, Marie-Ange. Mais la pauvre. Vous voyez qui c'est, Philippe ?
Non.
Non. Bah Marie-Ange, c'est une des participantes à L'amour est dans le pré de cette année. Ah. Elle a eu le béguin pour Jean-François, qui est berger dans l'arrière-pays ariégeois. Seulement voilà, vous connaissez le principe de l'émission, Jean-François doit choisir entre deux prétendantes, Marie-Ange et une autre, Mélanie. Et Jean-François, bah, il en pince plutôt pour l'autre.
Une très belle histoire d'amour qui commence. Je suis prêt à faire beaucoup de choses avec Mélanie.
Le hic, c'est que personne ne l'a encore dit à Marie-Ange. Alors, ah. Alors, dans l'émission d'avant-hier, Marie-Ange est passée pour une tarte devant toute la France.
Jean-François, je l'ai trouvé encore timide voilà, envers moi. Je pense qu'il a du mal à montrer peut-être ce qu'il ressent au fond de lui. Quoi.
Car son Jean-François, il n'a rien d'intimide, croyez-moi. Lundi, on l'a carrément vu mettre sa langue dans la bouche de Mélanie, et il n'avait pas l'air franchement frileux. Mais bon, vu que Marie-Ange n'était pas au courant, pendant la balade en montagne, elle a quand même tenté de lui passer le bras autour du cou, et eh ben Jean-François lui a collé un vent.
Non, mais écoute, on va redescendre, hein, parce que je ne sais pas si on ne va pas se mouiller quand même.
Et puis, il l'a purement et simplement oublié pendant toute la soirée dansante.
Occupé dans un joue contre joue langoureux avec Mélanie, Jean-François ne semble pas se rendre compte de la position cruelle dans laquelle se trouve sa prétendante délaissée.
Et la malheureuse Marie-Ange a été obligée de danser seule, toute seule, comme une pauvrette sous l'œil des caméras d'M6.
Marie-Ange sent bien qu'elle et son berger ne sont pas trop sur le même tempo.
Voilà, alors tout ça, mes enfants, c'était lundi. Mais hier... Ça s'est pas du tout arrangé pour Marie-Ange. Il était 7h30, je regardais LCI lorsque j'ai entendu ceci.
Et on commence ce journal avec cette histoire à peine croyable. Georges, retraité, âgé de 84 ans, se bat pour la troisième fois en 2 ans pour récupérer sa maison squattée.
Une histoire abracadabrantesque de maison squattée à Toulouse. Bon, au début, ça m'a pas franchement captivé, jusqu'à ce que je découvre que l'infortuné retraité avait une famille.
Sa fille est aujourd'hui désemparée face à la situation.
Et que sa fille, c'est...
Non.
Marie-Ange.
Oh, non.
Oui,
oh là,
oui,
non.
Philippe, oh là là. La Marie-Ange de l'amour
c'est
est dans
pas vrai.
Le
prêt.
Ils cassent tout, ils ont cassé le portail, bon, les portes, ils ont scié les barreaux pour entrer. Quoi.
Marie-Ange était donc aux aurores en train de raconter ses misères sur LCI et... En fin de matinée, je l'ai même retrouvé, où ça ? Sur BFM TV.
Ah non, non, je ne peux pas rentrer, bloqué. Là, ils ont tout mis dans le jardin et on peut pas rentrer.
Et quand je vous dis qu'elle a pas de bol, la Marie-Ange, je ne moque pas de vous du tout. Écoutez donc, ce qui est arrivé à la maison de son père, c'est la journaliste de BFM TV qui raconte.
L'an dernier, le propriétaire avait même fait murer hein, cette maison. Mmh. Un arbre, malheureusement, était tombé sur la maison.
Voilà. La baraque a pris un platane sur la cafetière. Et c'est pas tout, car figurez-vous que juste avant d'être squattée, la maison, eh ben Marie-Ange et son père étaient sur le point de parvenir enfin à s'en débarrasser.
Elle est sous promesse de vente, cette maison d'ailleurs, avec un promoteur, et ils veulent vendre cette maison. Et si elle est occupée, ce ne sera pas possible.
Bah oui, patatras, c'est pas possible. Et oui, Philippe, comme Marie-Ange l'a parfaitement bien résumé...
C'est cauchemardesque, quoi. C'est un truc... C'est inimaginable.
Alors reste tout de même une énigme. Quel charme cette Marie-Ange peut-elle bien trouver à la télé pour avoir à ce point envie de lui confier à la fois ses turpitudes sentimentales et ses déboires immobiliers ?
Quelle bonne question. Vous savez quoi ? J'ai envie de lancer une invitation à Marie-Ange.
Vous avez raison.
Elle ferait une invitée très, très intéressante dans Culture Média. Comment les gens vivent la télé de l'intérieur ? Merci beaucoup Bruno Donnet.
Sur une idée de Lisa Marie Marquez que je remercie chaleureusement.
Excellente idée. Nicolas Carreau, votre indispensable du jour.
Le très beau livre de Clara Dupont-Monod, S'adapter, qui vient de recevoir le prix Femina et le prix Landerneau.
Même question à Stéphanie Loire.
Je vais vous parler d'un album de musique créé
pas à l'intérieur d'un film de Wes Anderson, qui existe dans la vraie vie.
Et on va rester en musique. Nolwenn Leroy sera notre invité pour nous parler de son nouvel album qui va sortir, je dis ça de mémoire, le 16 novembre. Mais tout de suite, il y a un extrait dispo, c'est Brésil Finistère, Nolwenn Leroy sur Europe 1.
Jusqu'à 11h, Europe 1 Culture Média.
Brésil, Finistère, avec le son du ressac, c'était Nolwenn Leroy sur Europe 1.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média,
Philippe Vandel.
Bonjour Nolwenn Leroy.
Bonjour Philippe.
Chanteuse, 3 millions d'albums vendus, vous avez gagné la Star Academy en 2002, votre premier album fait un carton, d'autres suivent, notamment avec Souchon et Woolsey. Vous étiez le phénomène musical de 2011 avec l'album Bretonne, plus d'un million d'exemplaires vendus, et là votre actualité. Votre huitième album, il s'appelle La Cavale. On a peut-être reconnu le son, c'est réalisé par Benjamin Biolay. Il va sortir cet album le 12 novembre, mais il y a déjà deux titres disponibles, dont Brésil Finistère qu'on vient d'entendre et Le Tourni. Et vous serez vendredi, double actualité, à l'affiche d'un nouvel épisode de Capitaine Marlowe sur France 2, on va en reparler. Mais d'abord, cet album réalisé par Biolay, donc, comment s'est faite la rencontre ?
La rencontre, en fait, on s'est croisés plusieurs fois. On s'était rencontrés la toute première fois aux Victoires de la Musique. Et puis, à force de se croiser, en fait, on s'est à un moment donné, on s'est dit que Donc ça serait bien de faire de la musique ensemble, mais c'était bien avant le confinement.
Mais faire de la musique ensemble, ça veut dire quoi?
Parce qu'on peut faire de la musique ensemble.
On peut aller chez des potes dans une cave et prendre la guitare, le piano, ou se dire qu'on va faire un disque parce que vous êtes deux pros qui vendaient des disques tous les deux.
Mais ça commence souvent comme ça. Nous, c'est vrai que on avait, je pense, des points communs. Enfin, on vient du conservatoire, on a une formation classique, donc on se retrouvait sur pas mal de points comme ça. Enfin, après, donc, il y a eu son album Grand Prix qui a cartonné. Il a beaucoup joué au cinéma aussi. Je me suis dit, après le confinement, peut-être que c'est plus d'actualité. Il sera passé à autre chose. Et on s'est revus après. Je lui ai dit, est-ce que tu es toujours chaud pour qu'on fasse de la musique ensemble, pour qu'on fasse un album, pour qu'on fasse des chansons? Il m'a dit, mais bien sûr, allons-y.
Alors, faire des chansons, il y a deux choses. Il y a les faire, les écrire, les composer et aussi les réaliser. C'est-à-dire ce qu'on appelle réaliser, j'explique aux gens, faire le son de l'album. On convoque les musiciens, on fait les arrangements. Ouais. Il a fait quoi, Violet, sur cet album écrit... Et quel fut votre cahier des charges?
Alors, il a écrit, il a composé, il a produit, ce qui était assez énorme pour moi, parce que c'est vrai que depuis ma collaboration avec Laurent Voulzy, il y a presque 20 ans, j'étais à chaque fois, je partais dans mon coin, faire ma petite cuisine, écrire mes chansons. C'était important pour moi pendant toutes ces années pour installer un peu mon petit monde à moi. Et c'est vrai que là, le fait de refaire confiance, de lui donner les clés totalement et de m'abandonner finalement dans cet exercice-là.
Par exemple, là, ce qu'on vient d'entendre, il faut que je retrouve le titre
Brésil Finistère.
Tout vient de lui.
Tout vient de Benjamin, absolument. Et c'est vrai que, alors j'ai écrit une chanson, un texte sur l'album, mais c'est vrai que c'était vraiment ma volonté sur cet album. Je crois que c'était le moment parce que tellement de choses fabuleuses naissent de rencontres musicales et c'est extrêmement enrichissant de pouvoir travailler avec quelqu'un d'autre dans l'écriture d'un album et avec Benjamin encore plus parce que là j'ai pas non plus choisi n'importe qui. C'est quand
même temps, c'est
pour
très
moi
personnel. Parfois, on a l'impression que c'est vous qui avez écrit les chansons ou c'est vous qui les avez inspirées.
Bien sûr.
Il a quel âge, votre fiston ?
Il a 4 ans.
Il s'appelle comment ?
Il s'appelle Marin.
Et il y a une chanson, on devine qu'elle est dédiée au petit Marin. Ça s'appelle Mon beau corsaire. Ouais. Marin, corsaire, je ne suis pas allé chercher bien loin.
Ouais.
On va écouter, entendre quelques notes.
Tu n'es qu'un marin d'eau douce, mais tes yeux voient loin. Que ta peau reste aussi douce que ton destin.
Vous adressez à votre fils Marin.
Ouais.
Et on a l'impression que c'est la chanson de Violet, Ton héritage, dans lequel il s'adresse à sa fille Anna.
C'est un peu ça, il m'a fait mon héritage à moi, mais c'est vrai que c'est un peu paradoxal, certainement, mais c'est la réalité. Parfois, à travers une collaboration et une rencontre musicale, on arrive à aborder des sujets, des thèmes d'une façon différente et une écriture que je n'aurais peut-être pas eu moi-même. C'est-à-dire, moi, je suis souvent tout en métaphores, en images. J'ai du mal à exprimer mes émotions de façon plus directe. Et c'est vrai que Benjamin m'a aidé, je dirais, à écrire des chansons, peut-être un peu plus, à livrer des chansons un peu plus intimes et très, très personnelles, peut-être même plus que jamais. Je dirais, cet album, c'est peut-être celui où je suis plus en phase finalement entre ma musique, ce que je suis en ce moment. Il y a vraiment un alignement de planètes incroyable et je crois que c'est un état fabuleux de se sentir dans ce moment-là, dans son parcours, où on est en phase avec ce que l'on fait plus que jamais.
Et ce que l'on est, on va parler de choses personnelles. Dans un instant avec Nolwenn Leroy, c'est Lisa Marie Marquez qui va dresser le portrait pré-fame de notre invité. À tout de suite.
11h, Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie de la chanteuse et comédienne Nolwenn Leroy. Elle vient nous présenter son nouvel album La Cavale, elle vient nous parler de son rôle dans Capitaine Marlowe, ce sera vendredi. Et à l'instant, on va mieux vous connaître, Nolwenn, avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. C'est le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie.
Bonjour Philippe, bonjour Nolwenn Leroy. Vous avez conquis le cœur des Bretons et de la France entière. Vous êtes chaque année l'une des personnalités préférées des Français. Vous avez vendu des millions d'albums et vous venez nous présenter le 8e. Mais comment en êtes-vous arrivé là ? On va rembobiner et revenir ensemble sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Nolwenn Leroy, vous êtes née dans le Finistère, à Saint-Renan, un 28 septembre. Vous êtes donc balance de signe astrologique et la légende dit que c'est le signe des magiciennes et des sorcières.
C'est vrai ?
C'est moi.
Elle est venue en balai.
Je suis venue en... Tout à fait.
Vous passez votre petite enfance près de Brest, à Kersin-Plabennec, mais vous quittez cette région brutalement à l'âge de 11 ans pour des raisons familiales. Vos parents se séparent et vous partez donc avec votre mère et votre sœur vivre chez votre grand-mère. Une période difficile pendant laquelle la musique devient un refuge, une thérapie. Vous grandissez avec beaucoup de musique autour de vous. Il y a les chansons bretonnes, bien sûr, les classiques de la musique française que fredonne votre grand-mère, mais aussi les vinyles de votre maman que vous lui piquez pour les écouter en boucle, comme Kate Bush par exemple.
Et ouais. C'est beau.
Quelle merveille.
Quelle merveille, hein, cette chanson.
Ouais.
Avec votre argent de poche, les deux premiers albums que vous vous offrez, ce sont d'abord Dangerous de Michael Jackson.
Ouais. Sa base.
Et Back to Front de Lionel Richie.
Ah ouais. C'est vrai. Et j'ai eu la chance de chanter par la suite d'ailleurs.
Ouais.
Nolwenn Leroy, enfant, ce qui vous inspire, ce sont les contes et les légendes qui nourrissent votre imaginaire. Les livres comme Léo de Hurlevent d'Emily Bronte. Il y a aussi Le chat d'Alice au Pays des Merveilles. Et dans un autre registre, les films d'horreur, les films d'épouvante qui vous font peur, mais vous détendent.
C'est vrai ?
Moi, je suis là, bientôt Halloween. Alors moi, c'est ma fête préférée. Hein.
Ça vous détend ?
Ça me permet de voir la vie d'une façon beaucoup plus légère.
Parce qu'il y a pire ailleurs.
Voilà, exactement. Et puis parce qu'à la fin du film, c'est terminé. Alors on se sent beaucoup plus... rien n'est grave.
Ouais.
Mais au-delà de ça, j'adore la culture des films d'épouvante des années 80. Enfin voilà, c'est vraiment un truc à part. C'est pas tous les films d'épouvante non plus. C'est vraiment...
Il faut, parfois, dans les films des années 80, il faut que les trucages soient un peu foireux aussi.
Ah oui, c'est ça qui est bien. Et puis la musique, tout. Il y avait... il y a des chefs-d'œuvre, quoi. Halloween, justement, c'est fabuleux. Ouais, tout, quoi. C'est...
Concernant vos ambitions, vous savez que vous voulez devenir chanteuse. À 12 ans, vous signez déjà des autographes au collège. Vous inscrivez Nolwenn, future chanteuse.
Non. Ouais, non, c'est pas au collège. Non, j'étais petite et c'était à ma meilleure copine quand je lui envoyais des cartes postales de vacances l'été. C'est vrai que je signais Nolwenn et entre parenthèses, je mettais future chanteuse.
Bravo, bien vu. Bien vu. Comme l'offert d'Orelsan, vous avez prévu ça.
Mais c'était...
Nolwenn Leroy, votre vie change après votre première expérience humanitaire. Vous avez 13 ans, vous gagnez un concours et vous partez au Mali pour une mission de 2 semaines à Tombouctou auprès d'une ONG qui distribue des fournitures scolaires. Une expérience enrichissante mais éprouvante car vous allez être très malade là-bas.
C'est sûr que parce qu'on n'est pas tous prêts à 13 ans à partir au Mali, enfin en Afrique, c'était quand même les conditions, dormir dans les tentes au bord du Niger et tout, c'était fabuleux, de pouvoir partir sur une des routes les plus dangereuses et aujourd'hui on peut plus vraiment partir là-bas. La route de Gao à Tombouctou aujourd'hui, c'est une des routes les plus. J'ai lu un article récemment qui disait que c'est une des routes les plus dangereuses du monde.
Voilà.
On était en convoi effectivement humanitaire pour distribuer des fournitures scolaires dans des petits villages. C'était une expérience fabuleuse quand tu vis ça quand t'es jeune justement, ça influence vraiment, ça change ta vie et ta façon de ton rapport avec justement l'éducation, l'école, toutes les chances que l'on peut avoir.
Et dans l'album, il y a même une chanson qui fait référence au SDF.
Tout à fait, à ma rencontre avec l'abbé Pierre après, bien sûr. Ouais.
Autre expérience marquante, 2 ans plus tard, vous partez passer un an aux États-Unis dans une famille vers Cincinnati.
Ouais.
Une immersion totale dans un lycée américain où vous participez à l'orchestre et à la chorale.
Mm-hmm.
Côté scolaire, Nolwenn Leroy, vous avez une particularité, vous procrastinez. Et vous vous retrouvez à faire vos devoirs le dimanche soir à 22h pour lundi matin.
Ouais, c'est jamais arrivé à personne.
Moi je suis comme ça. Moi. C'est pour ça que j'aime pas le dimanche soir d'ailleurs, parce que je me dis toujours t'es large, t'as le temps.
Ouais.
Et puis là, je vois l'heure qui tourne, je me dis, ah là non quand même, là c'est un peu, il va peut-être falloir s'y mettre quand même. Donc, ouais, non, c'était un peu moi au lycée, mais finalement, bon, j'ai quand même réussi à faire des études malgré ça, malgré ma tendance à la procrastination. Et puis, pour les États-Unis, oui, c'est une année qui a changé ma vie cette année en immersion totale dans un lycée américain. C'était mon rêve américain de pouvoir partir entre ma seconde et ma première. Et j'ai beaucoup appris de cette année aussi. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, enfin, que le fait de devenir, que la musique soit mon métier à un moment donné, soit une vraie possibilité, que je l'ai vraiment envisagé parce que là-bas, tout est possible.
Après le bac, vous entrez en fac de droit avec l'envie de vous orienter vers l'humanitaire. Mm-hmm. Mais vos rêves de musique sont toujours là. En parallèle, vous étudiez au conservatoire de Vichy le violon et le chant classique. Étudiante, vous êtes aussi caissière dans un supermarché de Saint-Yor.
C'est vrai.
Caissière et boulangère. Oui, j'étais alors à la boulangerie l'été et puis après je suis passée en caisse le week-end après la fac. Et j'ai beaucoup appris aussi parce que sur les autres, sur les gens, sur ce métier qui est pas simple. Et c'est vrai, sincèrement.
Est-ce que vous avez dit la phrase Est-ce que vous avez prononcé la phrase que je déteste le plus au monde? Vous avez la carte du magasin?
Vous avez la carte du magasin, oui. Puis en plus, moi, j'avais fait quand même le passage du franc à l'euro. Donc voilà, c'était quand même quelque chose. Alors que j'étais pas du tout... Les chiffres, c'était pas trop mon truc. C'était quand même une petite migraine à cette époque-là.
Allez, les lettres.
Un jour, devant votre télé, vous découvrez, comme des millions de téléspectateurs, une nouvelle émission, la Star Academy. Et ce qui vous fascine à l'écran, c'est la prof de chant un peu baroque, Armande Altaï. Vous décidez de suivre ses cours de chant lyrique à Paris. Elle vous encourage à vous lancer. Vous n'avez alors jamais passé de casting de votre vie. À 19 ans, vous tentez le coup. Vous auditionnez en envoyant des cassettes aux équipes de la comédie musicale Autant en emporte le vent pour le rôle de Scarlett et aussi pour la deuxième saison de la Starac. Et là, vous avez le choix. Vous êtes prise aux deux. Vous choisissez finalement la Star Academy. 6,5 millions de Français vous découvrent le 31 août 2002 lors du tout premier Prime où vous interprétez sur le plateau « L'amour est un oiseau rebelle » de l'Opéra Carmen. Le public apprend à vous connaître et c'est le début d'une folle aventure qui ne fait que commencer. Nolwenn tout court deviendra Nolwenn le roi. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là.
Merci.
Voilà. Et fame. Merci beaucoup. C'est incroyable toute cette vie. Encore, c'est que le début.
Oui, non, mais c'est en raccourci comme ça. Là, c'est en.
Et vous disiez la première, 6,5 millions de téléspectateurs. La finale, où vous gagnez la finale, 11 millions de téléspectateurs. On en reparlera. On a encore plein de questions pour vous, Nolwenn le Roi. On n'a même pas eu le temps de parler de Capitaine Marlowe.
Mais
c'est
oui.
Vendredi. Et puis, on va parler de musique et de littérature. Culture Média continue. Salut, Lisa Marie. À demain.
À demain.
Merci.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Nolwenn le Roi, La Cavale, son nouvel album, votre nouvel album, ça sort le 12 novembre. On a entendu un titre. L'album est réalisé par Benjamin Biolay. Vous avez fait en 2011 un énorme carton avec l'album Bretonne, 1 million d'albums vendus, notamment avec un classique de la culture bretonne, vous allez nous dire. Ça s'appelle La Jument de Michau. Quelques notes.
C'est dans deux ans, je m'en irai. J'entends le loup et le renard chanter. C'est dans deux ans, je m'en irai. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. C'est dans un an, je m'en irai. La jument de Michau a passé dans le pré. La jument de Michau et son petit poulain.
C'était un énorme carton et vous avez toujours refusé de sortir un album Bretonne 2. Pour quelle raison ?
Mais j'ai pas refusé, peut-être qu'un jour je le ferai, mais pas Bretonne 2 parce qu'il y a un côté un peu, un deuxième volet d'un film.
Die Hard 2, ouais.
Voilà.
Halloween
mais,
2.
Mais plutôt, non, une extension du projet, je dirais une ouverture vers autre chose parce qu'il y a tellement de chansons que j'aurais aimé chanter que j'ai dû laisser de côté parce qu'il fallait faire un choix, notamment de chansons internationales, enfin de chansons internationales, de chansons du répertoire plus irlandais et puis d'autres chansons aussi qui m'évoquent la Bretagne. Enfin, j'ai encore plein de chansons. Donc peut-être que je le ferai un jour, mais pas sous forme de Bretonne 2, c'est plus voilà une. J'étais dans le souvenir, on va dire, de cette Madeleine de Proust, cette nostalgie de l'enfance. Et là, ça, je serais plus, je dirais, vers une transmission aussi maintenant que si mon fils va en Bretagne aussi. Et donc ça aurait un sens. Et peut-être que je le ferais. Ouais.
C'est des chansons qui ont des droits d'auteur ou est-ce que c'est des chansons traditionnelles, immémoriales, dont on ne sait pas d'où elles viennent?
Alors, ça dépend. C'est vrai que Bretonne, moi,
ça, par exemple, la jument de Michau.
Ça, c'est une chanson du répertoire traditionnel. L'idée de Bretonne, c'est vraiment de faire ma bande originale, ma bande son de la Bretagne, des chansons que j'ai envie d'écouter lorsque je repars en Bretagne, lorsque la Bretagne me manque. Donc c'était composé de chansons traditionnelles, mais aussi de, il y avait je m'embrasse de Miossec, il y avait des chansons plus récentes aussi qui m'évoquent la Bretagne, et pas forcément des chansons du répertoire traditionnel, mais c'est ce qui a fait la force aussi du projet, justement.
Et un son très, très, très moderne.
Et un son et une identité.
Vous êtes une grande lectrice ?
Je l'ai toujours été, moins ces derniers temps, parce que j'ai moins le temps. Aujourd'hui, depuis l'arrivée de mon petit garçon, c'est des petits moments comme ça, furtifs, où je peux me poser pour lire un bon bouquin.
Mais j'adore lire.
À part Choupi, oui, c'est ça. Je lis plus, en fait.
On a tous eu des enfants, donc on sait ce que c'est.
Des livres pour enfants, en fait, depuis ces derniers temps.
On a tous connu ça à un moment donné.
J'adore d'ailleurs ça, la littérature pour enfants, ça me passionne. Et
c'est pas vrai.
J'ai toujours. Ah, j'adore. Et puis j'adore lire des contes, j'adore ça. J'adore. J'étais une grande fan de Marlène Jobert quand j'étais petite, des contes de Marlène Jobert.
Avec sa voix extraordinaire.
Ouais, j'adore. Donc j'adore faire ça.
Et c'est Nicolas Caro qu'on entend approuver. Nicolas, bonjour.
Bonjour.
Vous aimez aussi les livres pour enfants et les contes ?
Oui, j'ai une petite fille de 5 ans, donc effectivement, Choupi, je connais bien.
Voilà. Mais là, c'est pas du tout Choupi.
Mais vous ça parle d'enfants aussi.
Vous nous parlez du prix Fémina et Landerneau également, c'est le nouveau roman de Clara Dupont-Monod, Nicolas Caro.
Oui, S'adapter chez Stock, ça se passe dans les Cévennes et ce sont les pierres qui racontent, les pierres d'une maison où vit une famille, les deux parents, l'aîné et la cadette. Et voilà un troisième enfant. Quand il naît, tout le monde s'extasie, comme toujours, trop mignon. Mais tout doucement, on s'aperçoit que quelque chose ne va pas. Il regarde dans le vide tout le temps, sa mère fait quelques tests, elle passe une orange notamment devant ses yeux pour voir s'il la suit des yeux, elle tente des choses comme ça, puis elle finit par consulter, il est aveugle.
Et comme on dit, il faudra faire avec.
Oui, et puis bon, c'est une mauvaise nouvelle, c'est sûr, mais personne ne panique tout à fait encore. On va s'adapter, on apprendra tous le braille, sauf que, en fait, il n'y a pas que les yeux. C'est bien plus grave, l'enfant souffre d'une pathologie qui donc le prive de la vue, mais on sait qu'il ne parlera jamais non plus, qu'il ne marchera pas, qu'il n'aura jamais le tonus nécessaire pour maintenir sa tête droite, par exemple. Il grandira, certes, mais son espérance de vie est de 3 ans. Là, ça devient vraiment dramatique. Et ce livre, très court, raconte les différents points de vue. Première partie, le frère aîné, puis la cadette et enfin le dernier frère. L'aîné justement, lui, décide tout de suite de consacrer sa vie à son frère. Il est dans l'amour pur, lui. Il voit peu ses copains, il ne sort plus, il s'occupe que de son frère. C'est-à-dire qu'il exploite au maximum les sens disponibles. Il lui fait entendre des bruits de la nature. On est dans les Cévennes, je rappelle. Il sort sa main par la fenêtre quand il pleut pour qu'il puisse sentir l'eau. Voilà, on est dans les sensations. Il pose sa joue contre sa joue. Il essaye de communiquer avec lui, en fait, Clara Dupont-Monod.
Et il y a quelque chose aussi qui le bouleverse, c'est ce bonheur que peut avoir son petit frère à partir du moment où ses besoins primaires sont rassasiés. C'est un enfant qui peut soit pleurer, soit rire, donc on va dire que c'est assez primitif comme communication, mais l'aîné arrive à des tas de nuances insoupçonnées. Il sait au bout d'un moment décoder le pleur d'un mal de ventre, d'un pleur de froid, d'un pleur d'inconfort. Et les sourires, c'est pareil. Et donc il arrive avec cet enfant à un niveau très 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 fin de communication, puisque cette communication, elle est infraverbale, infragestuelle, infravisuelle. Donc, il arrive à une sorte d'acuité comme ça, extrêmement poussée. Et pour lui, c'est un savoir hors norme que ne pouvait que lui donner un enfant hors norme.
Et puisque vous en parliez, ensuite, on va s'intéresser à la sœur cadette, c'est ça ?
Voilà, deuxième partie, pas du tout la même attitude. Elle est complètement en colère, elle est furieuse, pas contre son petit frère, bien sûr, mais contre l'injustice de la vie, quoi. Elle refuse. Et puis, il y a le quatrième frère, la dernière partie. Je peux pas trop vous en dire, je veux pas déflorer le roman, mais c'est très beau à chaque fois, très dur parfois aussi. Et à un moment de ma lecture, je me suis dit, c'est pas possible. Il y a un truc très intime qui se dégage de tout ça. Est-ce que ce serait pas autobiographique par hasard ? Eh bien, si.
Il y a un socle autobiographique, hein, c'est vraiment arrivé à ma famille. On a eu un moment un enfant qui est né handicapé, qui n'a pas vécu très longtemps. Mais ça n'est pas quelque chose qui, nous, frères et sœurs, nous a mis par terre. Je ne dis pas que c'est facile, mais ce n'est pas vrai. C'est très douloureux, très dur, mais n'empêche qu'on en est sorti beaucoup plus riche qu'avant. Grandi, je ne sais pas, mais plus riche qu'avant. Et donc, c'est pour ça que je milite vraiment pour que côtoyer des êtres qui sont différents, ça vous apporte tellement que je trouve hérétique que notre société les écarte.
Et le livre vient donc de recevoir coup sur coup le prix Fémina et le prix Landerneau.
Oui, et j'avoue que j'arrive un peu après la bataille sur ce coup-là. Et la vérité, c'est que quand j'ai vu le livre arriver fin août, je me suis dit... encore le même sujet, le regard des autres sur la différence, la souffrance, tout ça, j'avais déjà lu un peu. Et en fait, pas du tout. Il m'a attrapé pendant la lecture, ce livre. Certaines scènes sont bouleversante et puis beaucoup de beauté surtout et beaucoup de sensations. On respire, on sent, on entend dans ce livre. C'est assez incroyable et puis c'est très court, très vif.
Le titre donc, S'adapter, c'est signé Clara Dupont-Monod, c'est Stock, dans Loin de Leroy. Vous étiez très attentive.
Oui, ça a l'air passionnant, je vais lire celui-là, ouais.
Je vous donnerai bien le mien, mais c'est les épreuves,
il manque des pages. Et puis il l'a raturé rageusement. Merci beaucoup Nicolas Carreau. Culture Média continue. On va parler de musique, ça tombe bien, on est avec Noël Leroy, mais on va parler de musique également avec Stéphanie Loire et de musique, un peu de film, mais pas tout à fait, mais quand même, à tout de suite.
Cinéma.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Nolwenn Leroy, La Cavale, c'est son nouvel album. Capitaine Marlowe, c'est vendredi. C'est un rôle dans la fiction qui déchire tout sur France 2. On va parler de musique, musique et cinéma avec vous Stéphanie Loire. Rebonjour.
Bonjour à tous, bonjour Nolwenn.
Bonjour. Vous nous parlez d'un album de reprise de chansons françaises signé Jarvis Cocker. Lui-même album inspiré par le dernier film de Wes Anderson.
Oui, Jarvis Cocker, c'est le leader emblématique du groupe britannique Pulp. Il rend hommage à la pop française des années 60-70 avec son accent délicieusement british dans Chanson d'ennui, un album de reprise.
Je vais dessiner sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu.
C'est un peu érotique.
Hein. Il a plou.
Il a plou. Alors là, vous venez d'entendre sa version du célèbre Aline de notre très regretté Christophe.
Juste un mot, vous l'aviez bien connu Christophe, oui. Et la dernière chanson est un hommage à Christophe, oui. La dernière chanson de votre album.
Absolument, La Cavale, c'est un hommage à Brest et à Christophe qui nous a, ouais, qui nous a quittés à Brest, justement dans cette ville où je suis née et dont nous parlions quand on se voyait... De temps en temps, on allait dîner et puis on parlait aussi beaucoup de l'Auvergne, puisque j'ai aussi grandi en Auvergne, il est originaire. Il y a beaucoup de souvenirs là-bas, voilà. Donc c'est vrai que finalement, c'est devenu le titre de l'album et Christophe, c'était quelqu'un de, voilà, d'à part.
Et il nous laisse un héritage musical magnifique. C'est toujours un plaisir d'entendre ces titres ou même cette reprise aussi. Alors l'album dont je vous parle, lui, il est inspiré de l'univers artistique du dernier film du réalisateur Wes Anderson, The French Dispatch, présenté à Cannes en juillet dernier, qui sort en salle aujourd'hui. Un film nostalgique qui raconte des histoires publiées dans un journal d'expatriés.
Alors rapidement au casting, on retrouve qui ? Est-ce que ça vous a plu ?
Oh, est-ce que ça m'a... Deux questions en une. Le casting, il est prestigieux, hein, notamment Léa Seydoux, Benicio del Toro, Timothée Chalamet, Bill Murray, Owen Wilson, Matthew Amalric, Jason Schwartzman, Angelica Houston. Est-ce que ça m'a plu ? Je suis une grande fan du cinéma de Wes Anderson, de sa photo, de sa nostalgie. Celui-ci, j'ai trouvé qu'il s'était un peu enfermé dans ce qu'il fait de mieux, bon. Mais ça ne reste que mon avis. Je parle musique. Le film a évidemment sa propre bande originale parce que la musique tient toujours un rôle clé dans le cinéma de Wes Anderson. Une BO qui est signée par le compositeur oscarisé Alexandre Desplat. Mais ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est de l'album de l'un des personnages. Parce qu'en fait, Jarvis Cocker, il incarne Tip Top dans le film. L'archétype d'un chanteur populaire qu'on voit à peine d'ailleurs dans le film. Mais Wes Anderson et Jarvis Cocker ont envie d'offrir un faux album entier à ce personnage, qui est un vrai album du coup.
C'est le cœur. Vous, sur la terre, vous avez des docteurs.
Ce qu'on vient d'entendre, c'est la reprise du titre Contact de Brigitte Bardot par Jarvis Cocker. Alors, Chanson d'ennui, il rend hommage aux icônes de la musique pop avec des titres empruntés notamment à Françoise Hardy, à Serge Gainsbourg, à Brigitte Fontaine, à Jacques Dutronc. Des artistes qui sont chers au cœur du cinéaste Wes Anderson. On peut y entendre une version gorgée de soleil, je ne sais pas si vous allez aimer Nolwenn, moi j'adore, très bossa nova du Parole Parole d'Alain Delon et Dalida par Jarvis Cocker et Laetitia Sadier, c'est la chanteuse de Stereolab.
Moi, les mots tendres. Se pose sur ma bouche et jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 parole et encore des paroles.
Alors la version bossa nova.
Très sexy.
D'accord. Non, mais c'est vrai, on a envie de se mouvoir langoureusement. Parmi les pépites de cet album, une version guimauve à la harpe de La Tendresse, originellement interprétée par Bourvil, dans laquelle l'accent, cette fois de Jarvis Cocker, nous fait fondre comme de la jelly.
On peut vivre
vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 non.
Alors, il y a quelque chose de très régressif, moi, je trouve, dans cet album. À l'écoute, il a le parfum du goûter d'enfance avec les tartines de pain au chocolat. Sauf qu'en fait, là, ce sont des scones et ça marche plutôt pas mal dans le chocolat chaud, je trouve. Alors, avant de se quitter, est-ce que vous prendriez une petite part de Requiem pour un con de Serge Gainsbourg par Jarvis Cocker, Nolwenn?
Ah, ça ne peut que marcher, là. Là, bon. Je l'entends déjà.
On écoute.
Eh ouais.
Écoute les eaux, elles jouent pour toi.
Ouais, ça fonctionne. Hein.
Ouais, ça marche,
chanson d'ennui, signée Tip Top, alias Jarvis Cocker. Et le film de Wes Anderson, je le rappelle, The French Dispatch, sort aujourd'hui au Cinoche.
The French Dispatch, j'avais presque un aussi bon accent anglais que ce qu'il a un accent français.
Vous vous moquez de moi, peut-être?
Non, j'ai non, le même accent, non, je me permettrai pas,
non,
j'ai le même accent.
Pas.
Ça vous a plu, Nolwenn?
J'adore, mais non, mais c'est vrai que c'est vrai que ça fait très, très BO et la prod est géniale. Enfin, c'est vraiment. Puis ce ne sont que des tubes et que des grandes chansons, donc ça, c'est forcément, c'est.
Voilà. C'est Bourville à l'art par le gars de Paul, je pensais même pas que c'était possible un jour. Merci beaucoup, merci. Stéphanie Loire. Vous restez avec nous, c'est la dernière ligne droite de Culture Média. Et on va parler du Capitaine Marlowe, à tout de suite.
Voilà. 9h, 11h,
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Nolwenn Leroy, double actualité, comme on dit, La Cavale, c'est ce nouvel album. Il y a déjà un titre qui est sorti, réalisé par Benjamin Biolay. Tout l'album est réalisé par Biolay. Et l'album sortira le 12 novembre. Et puis vendredi, vous serez dans la série qui décape toutes les audiences sur son passage, Capitaine Marlowe, sur France 2. L'épisode s'appelle Claire Obscure, Claire comme le prénom Claire, avec Corinne Maziero évidemment, Benabar, Charles-Élie Couture et vous. Vous avez dit oui tout de suite?
Tout de suite. Tout de suite, parce que c'est vrai que. Non, mais ça faisait quelques années qu'on me proposait des fictions, des films, mais c'est vrai que voilà, je ne suis pas en excès de confiance. En général, ce n'est pas quelque chose qui me caractérise, donc je ne me lançais pas. En fait, j'avais peur.
Et là,
puis,
pourquoi vous avez dit oui?
José Daniel m'avait appelé après que j'ai parlé justement de Capitaine Marlowe, que j'aimais la série, et puis elle m'a contactée, elle m'a dit allons déjeuner, et puis à l'issue de ce déjeuner, elle m'a dit un jour, s'il y a un rôle qui se présente, est-ce que ça vous rancherait? Je dis pourquoi pas, et elle m'a appelé là en début d'année, elle m'a dit ça y est, on a pensé à vous pour ça y est, vous êtes prête à vous lancer?
Ouais.
Et là, je me suis dit, il faut y aller, parce que là, c'est exactement ce que j'attendais, l'expérience que j'attendais pour y aller.
Alors, d'un mot, l'histoire, c'est quoi? Mais surtout, votre personnage, c'est qui?
Alors, mon personnage, c'est une vétérinaire, une fille qui a un peu galéré dans son enfance avec Benabar, qui est son mec, qui lui est professeur dans un lycée agricole. C'est sur fond de, d'un meurtre d'une jeune fille.
C'est Marlowe.
Et on va dire, absolument. Et puis, d'écologie aussi, c'est ça qui est intéressant aussi dans cet épisode. Et puis, Corinne, quoi, qui est incroyable et qui est toujours. J'ai adoré travailler avec Corinne, c'est incroyable.
Alors, justement, on va entendre un extrait. C'est Corinne Maziero, donc le capitaine Marlowe, qui vient vous interroger après le meurtre, évidemment. Vous êtes dans votre cabinet vétérinaire.
Moi, je défends mon mec. Madame. Ils
sont bons, vos biscuits. Gendarmerie, on peut se parler en privé, là?
C'est quel sujet? J'ai rien à cacher.
Vous êtes sûr? Ok. Vos rapports sexuels avec M. Murat, c'était quoi? Contondant, omniscient, omniprésent?
Ça va pas, non? Il est où, Yannick?
Et Claire Duret, vous savez c'est qui?
Ça a rapport avec sa mort? Moi, je la connaissais.
Ok. Et comment vous l'avez rencontrée?
Grâce à un sanglier. Claire l'avait trouvé blessée dans un bois, c'était encore un bébé. Comme son vieux n'en voulait pas, j'ai accepté de le garder en attendant de lui trouver un parc ou un zoo.
Non, elle n'a pas le droit de garder un animal sauvage à sa maison. Elle savait pas, Claire?
Tu parles, j'ai même une procédure au cul. Si on le trouve pas d'endroit, faudra le piquer.
Un vrai sanglier.
Ouais,
comment c'était de tourner avec un vrai sanglier?
Ça aussi, c'était quelque chose. Bon. On s'est retrouvés quand même à caresser le sanglier avec Corinne. C'était un moment aussi. Tout était fou, tout était incroyable et fabuleux.
Et l'enchaînement, je suis obligé de poser la question. Comment c'est de tourner avec José Dayan? Ce qui paraît que c'est quelque chose. Et Maziero aussi, c'est quelque chose.
Mais oui, mais
on est en impro.
Mais oui, mais c'est ça qui est génial. Ce sont des personnages, des femmes fortes, de caractère et authentique, et moi j'ai adoré, et à la fois d'une bienveillance, sincèrement, je sais que c'est un mot qui est à la mode en ce moment, mais j'ai été accueillie Et vraiment, j'ai ressenti ce... Enfin, à chaque fois, à la fin de chaque journée de tournage, j'avais le petit mot de José, elle voyait que j'avais super peur, elle était hyper rassurante. Corinne qui réécrit tous ces
oui,
dialogues.
Oui, c'est pour ça que je parle de ça.
C'est vrai que c'est pour une première expérience, c'est pas forcément simple parce que...
Parce que vous jouez pas ce qu'on vous a donné.
Exactement. Donc, il faut vraiment se caler sur ce qu'elle dit, qui est pas forcément ce qu'il y a dans le scénario. Et tout de suite, on a été... elle m'a montré ce qu'elle avait réécrit et tout. Enfin, c'était vraiment une expérience fabuleuse. Et donc, qu'une chose, c'est d'y retourner parce que j'ai vraiment apprécié ce tournage.
Et
vraiment.
Sans parler du sanglier qui ne tient pas son texte. 10h55, c'est l'heure de Story de Lebray. Tous les jours, des stars viennent pour notre invité. Ce matin, c'est Nico Saliegas qui a un message pour vous, Nolwenn Leroy. Ah.
Salut les loups, tchatchiki, tchatchi-moi. Nolwenn, tu as déclaré que tu te sentais prête pour devenir coach dans The Voice. Je serais ravi de t'accueillir. Tu as toutes les qualités pour y arriver. Et en plus, rester assise des heures, ça te rappellera tes journées en Bretagne à attendre qu'il s'arrête de pleuvoir. Oh. Allez, bye bye les loups.
Nolwenn Leroy, un compatriote à vous, est également ici. C'est Olivier de Kersauzon.
Ouais, salut ma poule. Moi, je suis venu pour féliciter Nolwenn d'être passé aussi facilement de la chanson à la science-fiction. Bah, si, j'ai écouté Brésil Finistère. Bon, bah, pour arriver à trouver un rapport entre les deux, c'est de la science-fiction. Hein. D'ailleurs, Nolwenn, tu connais la différence entre le Brésil et la Bretagne ?
Non.
Tu peux répondre.
Non.
30 degrés.
Oh.
Au Brésil, les 30 degrés, c'est dans l'air, et dans le Finistère, c'est dans la bouteille.
Moment solennel, Nolwenn, car pour la première fois, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, voulait également vous dire un mot.
Bonjour, madame Nolwenn. Il y a Carla qui m'a dit de vous passer le bonjour. Enfin, je pense que c'est ce qu'elle a dit, parce qu'il n'y a aucun son qui sort de sa bouche et je dois lire sur ses lèvres. Enfin, en plus... On se ressemble, vous et moi, madame Nolwenn. Vous avez dit que La Cavale, c'est un album personnel inspiré de votre vie. Et bien, pareil pour moi. La Cavale, c'est inspiré de ma vie. On a tellement de points communs. Vous êtes né le 28 septembre et moi le 28 janvier. Et Paul Bismuth, il est né en septembre, donc le compte est bon. Et puis, vous êtes né en Bretagne et moi à Paris. Mais ça se ressemble. À Paris, les gens font la gueule. Et en Bretagne, les gens font la gueule de bois. Je vous le dis, on est pareil.
Et puis enfin, Christophe Willem, qui était un de vos collègues dans la troupe des Enfoirés, qui est avec nous.
J'adore Nolwenn et je me rappelle la première fois qu'on a fait un concert des Enfoirés ensemble. Oui. Je faisais la queue pour acheter ma place. Et Nolwenn est arrivée et elle s'est énervée. Elle a dit à la caissière, ça ne va pas lui faire payer une place. Vous savez qui c'est? Et la caissière, elle a dit, non. Donc j'ai payé ma place. C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux ? C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux ? Oui !
Merci beaucoup, Marc. On le tient très bien. Merci beaucoup, Marc-Antoine Lebray. À demain. Nous, on se retrouve demain.
Marc-Antoine Lebray.
À 9h pour Culture Média. Nous serons avec Pascal Nègre et Thierry Macharny.
Merci beaucoup.
On va parler du prime de la Starac. Ça sera samedi soir sur TF1. Et puis l'humoriste Christelle Chollet qui sera avec nous. Juste après le flash, c'est Julia Vignali et Mélanie Gomez. Laisse-nous parler, Marc-Antoine. Bien fait pour vous. Le prime du jour parce qu'on est à la bourre.
Eh bien, on va parler d'abord d'amour. Un beau sujet aujourd'hui. Peut-on vraiment trouver le grand amour sur Internet? Vous savez, sur les applis de rencontre. Je sais pas si vous avez déjà. Utiliser
moi,
ce genre de
site,
trop vieux.
Bon, quand j'avais 20 ans, Internet n'avait pas été inventé.
Bah oui, c'est ça.
Mais vous avez le bon âge pour gâter votre prostate, Philippe, puisque c'est le deuxième sujet du jour. Voilà, on va gâter les prostates, on va faire attention à ce que cette zone-là soit en bonne santé. Allez, bon appétit.
Merci beaucoup, merci Nolwenn Leroy.
Merci Philippe.
À demain, bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Salut.